Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Arrêtez de vous virer sur une scène. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
Le mois de mars marque un peu le premier anniversaire du début de la pandémie au Québec. Cette crise a imposé des pauses économiques aux entreprises et aux commerces du Québec, des tours à bureaux vides, des commerces fermés, des entreprises sur le bord de la faillite. Mais derrière les portes closes, il y a des personnes, là, des acteurs économiques qui travaillent fort à la relance économique. Il y a une personne qui, évidemment, même le premier ministre a dit « on est chanceux d'avoir ce ministre-là ». Donc, je reçois le ministre de l'économie du gouvernement de François Legault, M. Pierre Fitzgibbon. Comment allez-vous, M. Fitzgibbon?
Bien, bon matin, merci, ça va très bien.
Oui. Comment vous avez vécu, vous, toute la pandémie, personnellement? Comment vous avez...
Ben écoutez, c'était évidemment très, 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 très difficile parce que quand on retourne en arrière, vous l'avez mentionné, on a fermé pratiquement 40% de l'économie. Donc, de voir tous les entrepreneurs, les entreprises souffrir, les gens aussi, évidemment, malgré qu'il y a eu des bons programmes par les gouvernements, c'est très dur. Très dur de voir, tu sais, on commence à être fragile, hein, une économie. Le Québec, avant la pandémie, on était sur un air d'aller. Nous étions la province avec la plus grande croissance. Et là, d'un coup, pouf, on arrête tout. Alors, beaucoup de stress, beaucoup d'improvisation, il faut avouer. Hein. Il faut réagir, comme on dit, là, sur l'instant du moment.
Alors, mais là, maintenant, est-ce qu'il y a une leçon que vous avez pris plusieurs actions, là, vous avez été dans l'actualité, vous avez mis des programmes, vous avez bougé sur plusieurs choses, mais y a-t-il une leçon que vous tirez d'action que vous avez prise, puis aujourd'hui, vous regardez, puis vous auriez fait autrement?
Mais je pense que la question d'approvisionnement stratégique. Hein, je pense, moi j'ai vécu la psychose des masques, la psychose des EPI. Je pense qu'on a tous appris de ça et on ne veut plus retourner dans une situation comme ça. Donc des situations difficiles, j'appellerais quasiment catastrophiques. Là, il faut se prémunir dans certains dans le cas particulier celui-là. C'est clair que nous étions pas prêts pour adresser les enjeux, des outils nécessaires pour combattre l'ennemi sanitaire, ça c'est clair. Et là, on a fait des choses depuis, mais il faut apprendre à voir où sommes-nous vulnérables. Quand il va y avoir j'espère qu'il n'y aura pas, hein, puis c'est d'autres fermetures quasiment complètes comme l'économie. Là.
Au début de la pandémie, le premier ministre Legault et même vous avez dit, il y a des entreprises qu'on va pouvoir sauver, puis il y en a d'autres qu'on ne pourra pas sauver. Pourtant, là, quand on regarde là, présentement au surintendant des faillites, il y a très peu de faillites. Bon, évidemment, il y en a, comme aujourd'hui, vous avez vu le groupe Atis, là, c'est quand même un gros joueur dans porte et fenêtre au Québec qui se retrouve sur la loi de la protection de la faillite. Mais en réalité, là, est-ce que, avec l'aide de l'État et tout ça, est-ce que là, pour le moment, vous, avez-vous une bonne idée de ce qui nous attend? Là? Est-ce qu'il va y avoir un hécatombe, comme le dit la Fédération des entreprises indépendantes, qu'il va y avoir une PME sur deux qui va disparaître? Est-ce qu'après l'aide, là, on va avoir une série de faillites? Est-ce que dans votre radar, là, vous voyez des choses qui devraient nous alerter?
Bon, d'une part, je pense que la SCI est un petit peu apocalyptique, honnêtement, sur son constat. Je l'ai dit fermement à monsieur Vincent, je respecte beaucoup. Ceci étant dit, je pense qu'il est clair que l'économie, somme toute, va relativement bien. Par contre, j'ai toujours dit que, d'ailleurs, c'est pour ça que le programme de l'ARAM est en complémentarité avec celui, les deux programmes du gouvernement fédéral. Je pense que les gouvernements, en général, au Canada, ont fait un très bon travail parce que, comme vous le dites, aujourd'hui, les fermetures ont été moins nombreuses qu'en 2019. Maintenant, il faut reconnaître que les commerces sont encore fermés, les fameux restaurants, les gyms, les cabanes à sucre, c'est très difficile pour ces gens-là. Et il faut que nos programmes soient modulés. Alors, c'est pour ça que la RAM, on l'a mis en place. On essaie de faire de la chirurgie ici là, pour s'assurer que ce qui reste des entreprises qui ont des difficultés, qu'on puisse en sauver le plus grand nombre. C'est sûr qu'on veut pas personne qui ferme ses portes, mais faut admettre qu'il y a des gens qui ferment présentement, qui auraient fermé même s'il n'y avait pas eu de pandémie. Alors, faut faire attention à ça. Mmh. Mais il faut être sensible, et comme gouvernement, je veux pas qu'on apparaisse insensible quand je dis qu'on a des bons programmes. Il faut faire des ajustements pour continuer à en faire. Mais somme toute, là, on est dans une situation qui est quand même relativement bonne. Puis si on peut réouvrir les restaurants et les gyms prochainement, vous allez voir, dans deux mois, on ne parlera plus de ça.
Nous sommes avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, pour parler de un an de la pandémie. Je veux vous parler de la relance économique. Parce que, bon, évidemment, il y a l'aide ponctuelle d'aider des entreprises actuelles, mais évidemment, ça donne l'occasion au gouvernement actuel de revoir où on va investir pour l'avenir, revoir notre économie. Et vous avez quand même identifié quelques secteurs, là, vous avez quand même fait des annonces. Si vous aviez à miser là, sur un secteur, vous dites, là, quand on va se parler l'année prochaine, vous dites, ça, je vous avais dit qu'on investirait là-dedans, puis voici les résultats. Là, vous avez parlé de l'aérospatial, vous avez fait des annonces là-dessus, le lithium, le pharma, évidemment, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle. Si vous aviez un secteur, vous dites, là, M. Daou, je vais vous parler dans un an, puis ça, c'est celui où j'avais dit qu'on investirait, puis on a eu des résultats, ça serait quel?
Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Je réponds différemment pour revenir à votre question, parce que c'est une très bonne question, mais j'ai pas la...
Vous n'avez pas de boîte de cristal qui vous dit c'est quoi?
Non, mais par contre, j'ai une partie de la solution. Premièrement, vous avez absolument raison. La première chose qu'il fallait faire comme gouvernement, c'est de combattre l'ennemi invisible de la pandémie. Beaucoup de travail a été fait sur ça, on en a parlé. Deuxièmement, il fallait que nous mettions en place des programmes pour complémenter le fédéral, je dis bien complémenter, pour s'assurer que l'écosystème demeure le plus sain possible. Et je pense qu'on a atteint cet objectif-là avec des mesures additionnelles qu'il va falloir faire. Là, maintenant, la relance économique, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Il y a quatre mesures qu'on fait, pour en parler de deux. Secteur stratégique, il est clair que le gouvernement doit compenser le manque d'investissement privé dans les secteurs qui sont performants pour le Québec, qui étaient performants avant la crise. Premier point. Deuxième point, il faut numériser, encourager l'innovation. C'est les deux choses les plus importantes. Après, la balance commerciale qu'il faut essayer d'équilibrer, donc exporter plus, importer moins, et développement économique régional. Si je reviens au stratégique, il y a cinq secteurs importants. L'aluminium, l'aéronautique, les sciences de la vie, l'électrification des transports et nos ressources naturelles, forêts et mines. Dans ces cinq secteurs-là, nous allons mettre pas loin de 200 millions d'argent additionnel dans les prochains 18 mois, pour s'assurer qu'il y ait des projets mobilisateurs, pour qu'on puisse créer des emplois et aussi maintenir les emplois. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je ne veux pas voir des ingénieurs en aéronautique transférer de secteur parce qu'il n'y a pas assez de projets.
Mm-hmm. Mais la question que je vous posais, je vois très bien, là, mais l'idée, là, c'est que vous les voyez, les secteurs, là, aérospatial, lithium, pharma, celui que vous estimez là, qui est le prometteur, là, puis pour lequel là, vous allez mettre plus d'énergie que d'autres, ouais. C'est quel que vous êtes très sensible, qui vous excite le matin quand vous vous levez, là?
Le côté des électrifications des transports. Pourquoi? Parce qu'on part de loin. Et on a un avantage comparatif incroyable. Nos minéraux, on a le nickel, on a le lithium, on a le graphite, on a l'énergie à bas coût renouvelable, verte. Alors, on a tout ce qu'il faut pour vraiment devenir, en Amérique du Nord, un joueur important. Par contre, on se bat contre beaucoup de juridictions. Alors, présentement, on a un effort incroyable là-dedans. On a fait quelques annonces au niveau de Nemaska. D'autres, j'espère, s'en viennent. On travaille, j'ai une équipe à temps plein sur ce dossier-là. Alors, l'aluminium, l'aéronautique, on a déjà des acquis. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est s'assurer qu'on continue à mettre la charge dans les batteries en question. Dans le cas de l'électrification du transport, on part de zéro. Moi, ultimement, ce que je veux voir au Québec, c'est que nos minéraux se transforment en batterie, au moins pour la consommation des véhicules électriques qu'on va fabriquer au Québec, ne serait-ce que les autobus scolaires, autobus urbains, trains, camions. Donc, je pense qu'on a un projet de société qui est excessivement porteur pour le Québec.
Je reviens sur, évidemment, ce secteur-là de la lithium puis les batteries. Là. Est-ce qu'il est possible qu'on, dans la prochaine année, qu'on puisse voir déjà le début d'une usine de batterie au Québec?
Bon, écoutez, probablement quand on parle d'usine de batterie, là, je ne veux pas faire de toto de sémantique, mais c'est important, il faut faire attention parce qu'il y a une chaîne qui est très complexe. part du minerai. Mm-hmm. On doit le transformer. On parle d'hydroxyde de lithium, on parle de sulfate de nickel, on parle de sphérique en orbite graphite. Il y a un processus de transformation. Après ça, on fait des cathodes qui viennent en grande partie du nickel et du lithium. On fait les anodes qui viennent du graphite. Mm-hmm. Après, on a un cellulier qui fait la cellule. Puis après, on a l'assemblage de batteries. Donc, il y a plusieurs morceaux de la chaîne. Je pense que en 2021, notre objectif, c'est d'annoncer, idéalement, pour chacun des maillons de la chaîne des choses. Donc, au niveau du minerai, on a annoncé deux projets, Nouveau Monde Graphite, Nemaska, le nickel va s'en venir. Au niveau de l'assemblage des batteries, on va probablement annoncer des choses dans les prochains mois. Mm-hmm. Et entre les deux, nous travaillons très fortement avec plusieurs investisseurs stratégiques étrangers qui regardent le Québec et disent « Wow, il y a quelque chose qui se passe au Québec ici. » Et quand on regarde le marché de l'Amérique du Nord, il y a un marché potentiel incroyable. Donc, est-ce que le Québec peut devenir central à une chaîne d'approvisionnement plus courte? Parce qu'aujourd'hui, les cellules sont faites principalement en Asie. Mm-hmm. Alors, on peut concevoir qu'à un moment donné, ça va être fait dans un environnement géographique beaucoup plus court.
Monsieur Fitzgibbon, je vais vous parler d'un secteur qui est quand même un secteur qui est l'équivalent de l'industrie automobile en Ontario, qui est l'aéronautique. Bon, vous avez vu les annonces récentes de Bombardier qui a quand même coupé des emplois. Évidemment, cette grande entreprise qui était très impliquée dans le... évidemment, les avions commerciaux sont partis. Et là, il reste juste les jets d'affaires avec quand même 13 000 employés. Et rappelez-vous, la division des jets d'affaires de Bombardier, il y avait eu des discussions à une période où ce que ça pourrait être vendu au gérant américain Textron, au moment où ce qu'il y avait eu des enjeux par rapport à la dette de Bombardier. Si jamais Bombardier décidait de vouloir vendre cette division des jets d'affaires à une entreprise, qu'est-ce que vous feriez?
Premièrement, vous avez entièrement raison. C'est un secteur où on ne peut pas laisser partir des fleurons. On est quand même aujourd'hui dans une situation où il y a beaucoup ce qu'on appelle les Tier 1. On parle des Airbus, on parle de Bombardier, on parle de Pratt & Whitney, on parle de CAE, on parle de Goudevtech qui est rendu un gros joueur. Il faut maintenir cet écosystème-là. D'ailleurs, l'annonce de la semaine passée, on était agressif avec Telesat. Bon, Telesat, MDA, ce sont des opérations satellitaires, mais quand même, un satellite, c'est parti de l'aéronautique. Donc, on est content de voir qu'on va créer 600 emplois bien rémunérés. Il faut faire la même chose dans le secteur aéronautique plus traditionnel. Nous ne voulons pas et ne pouvons pas laisser partir Bombardier, parce que Bombardier, avion d'affaires, ce sont les champions du monde. Mm-hmm. La société a changé de face, évidemment, on sait tout ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, on a une entreprise qui est dominante dans son secteur. Alors, mm-hmm. on va tout faire pour que Bombardier reste ici, on va tout faire pour qu'il y ait une croissance, tout comme on va vouloir que le fameux A220 de Airbus qui est fait à Mirabel. Il y a un peu de vent de face présentement, mais il faut s'assurer que cette société-là continue à faire ces avions-là, parce que tout l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement québécoise pourrait en souffrir. Donc, je suis très sensible.
Mais vous savez, le chef de la direction financière d'Airbus, là, Dominique Assam, là, a récemment fait ses prévisions là, par rapport, et là, il était un peu inquiet par rapport à la rentabilité du A220. Il dit même que l'objectif est de profitabilité. Là, il a reporté ça à 2026, puis il dit que les pertes de l'A220, là, écoute, c'est énorme. Puis pourtant, nous, on est en partie un peu actionnaire de tout ça. Vous n'êtes pas inquiet, vous, par rapport à la situation du A220?
Écoutez, je suis inquiet du secteur au complet parce que ce que le CFO d'Airbus se référait, c'est qu'il y a un décalage. Hein? Mm-hmm. Les sociétés aériennes qui sont en difficulté vont retarder l'achat d'avions. La question fondamentale, c'est est-ce que le A220 est un avion qui est performant et a sa place dans l'écosystème aéronautique civil. La réponse est oui. Mm-hmm. Je pense que c'est un des meilleurs avions avec le 787, le Dreamliner. Alors, je ne vais pas faire de publicité pour personne. Alors, le A220 est un excellent avion. Là, on a un report de 2 ans, à peu près, sur la profitabilité. Alors, je pense une question, qu'est-ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse continuer à performer, et on va regarder avec Airbus ce qu'il y a à faire. Mais je pense que fondamentalement, le programme de 220 n'est pas remis en question ici.
En concluant, je veux terminer. Vous savez, les Québécois sont très sensibles aux questions de nationalisme économique. Là. En fait, c'est devenu comme les matchs des Canadiens, la question de nos fleurons. Les Québécois sont préoccupés par l'avenir de nos fleurons. Je vais revenir sur un dossier que vous connaissez très bien, qui est l'achat de Transat par Air Canada. Hier, le PDG de la Caisse de dépôt a dit déjà clairement qu'il fallait envisager un plan B pour Transat. Est-ce que vous, comme ministre de l'Économie, êtes prêt à soutenir... on sait que l'homme d'affaires, Pierre Calpelado, a déjà indiqué clairement que lui, il est intéressé. Vous, est-ce que vous êtes prêt à embarquer et à appuyer Pierre Calpelado pour être capable de garder le siège social au Québec puis de faire en faire une compagnie nationale au Québec?
La viabilité d'Air Transat est au cœur de nos préoccupations. Bon, Air Canada, on va voir ce qui va se passer. Monsieur Aymon, on se parle, le gouvernement aussi. Il faut qu'il y ait un plan B. Je pense que le management et le conseil d'administration se penchent sur ça. Et dans le plan B, s'il y a une solution québécoise, peu importe laquelle, le gouvernement du Québec va être au rendez-vous.
Monsieur...
Il faut évidemment faire attention, parce qu'il faut juste une nuance, il faut faire attention, parce que c'est quand même... Il faut c'est une industrie qui a le vent de face, là. Et puis, Air Transat, c'est pas facile ce qui se passe. Donc, c'est sûr, nous voulons intervenir. J'ai été très clair sur ça, même à mes homologues au fédéral. Il faut, par contre, avoir une structure qui tienne la route, là, parce qu'on veut pas retomber dans la même situation dans 2 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses majeures qui devront être faites dans l'entreprise. En termes de structure de capital, je parle entre autres, si le plan A ne fonctionne pas. Mais définitivement, le gouvernement du Québec va épauler tout Québécois qui est intéressé à reprendre l'entreprise.
Merci beaucoup, M. Fitzgibbon. C'était le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a beaucoup de travail encore à faire pour permettre aux entreprises du Québec de relancer leur entreprise, puis évidemment de relancer l'économie. Bien, je vous souhaite une bonne année, M. Fitzgibbon.